France Inter, le 18-20.
À France Inter, désormais, je crois qu'on peut dire qu'on a tous nos mugs ou nos tasses, enfin en tout cas beaucoup d'entre nous, nos gourdes aussi pour certains. On sait très bien, ou en tout cas on devrait le savoir, qu'il suffit de mettre sa tasse dans la machine à café pour qu'elle ne fasse plus tomber un gobelet en plastique automatiquement. Aujourd'hui, évidemment, on fait un effort particulier comme nous l'avions déjà fait le mois dernier. Tout n'est pas parfait, mais on apprend. Le plastique n'a pas disparu, on y travaille et c'est pas si simple. Pour vous donner une idée, la difficulté, c'est ce qu'il faut remplacer, laver, équiper, donc avec un circuit de nettoyage. Une augmentation du nombre de fontaines d'eau par exemple, c'est un nouveau marché et il y a des règles. Une filière de recyclage des gobelets cartons, ça aussi ça s'organise. Et pour vous donner encore une meilleure idée, quand on parle des invités de France Inter, c'est à peu près 500 petites bouteilles d'eau hebdomadaires. Évidemment c'est une moyenne, ça vous donne une idée de ce que ça représente chez nous. Et c'est pour ça qu'on a voulu dans le téléphone sonne échanger sur vos entreprises, sur votre bureau, sur votre boulot. Qu'est-ce que vous faites, vous, les salariés? Est-ce que c'est vous qui poussez à mieux déplastifier votre entreprise? Est-ce que vous progressez? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Est-ce qu'il y a une éco-conduite à tenir? Est-ce que vous savez vous y tenir? Qu'est-ce qui se passe à midi, par exemple? Évidemment, c'est pas pareil si vous êtes 12 que quand on est 3000 ici, comme à la maison de la radio. Bref, déplastifions, décarbonons aussi tant qu'on y est nos lieux de travail. Et soyez les bienvenus.
Fabienne Saint-Pès. Le téléphone sonne.
Et Bérangère, vous êtes la bienvenue. Bonsoir Bérangère.
Oui, bonsoir.
Je vous écoute.
Oui, merci beaucoup. Je travaille dans une très grande entreprise et moi je suis contre le plastique depuis des années. J'essaye de discuter avec toutes les personnes qui travaillent autour de moi, des personnes de tous âges pour les convaincre d'arriver au travail avec un mug, d'arriver au travail avec une gourde au lieu d'une bouteille en plastique. On a des machines à café qui déversent des gobelets à longueur de journée. Donc moi j'ai mis des placards sur les machines à café en disant faites un geste pour l'environnement, un gobelet ça met 100 ans à disparaître, c'est du plastique, venez avec votre tasse, avec votre mug. C'est arrivé qu'on me déchire la fiche et puis je continue à avoir des gens qui
Dis donc, ça a l'air sympa chez vous Bérangère. Hein.
Pardon ?
Ça a l'air sympa chez vous. Hein.
Mais en fait, il y a eu un... Alors, moi, je me rappelle de Nicolas Hulot qui parlait des petits bougets. Il y a des petits bougets, mais qui sont vraiment très petits. Et moi, de ce que je vois, parce que c'est une grande entreprise, on a plusieurs buildings. On a eu une construction d'un nouveau building qui est plus centré sur l'environnement. Donc, c'était pour moi un vrai bouget. Mais les gens, ça les ennuie de ramener leur tasse, ils râlent parce que y a pas de gobelet dans la machine. Et ça, c'est un building parmi tant d'autres. Et moi, je suis dans les autres, j'en ai fait plusieurs. Et je trouve que c'est compliqué. Là, j'ai demandé un petit budget pour... je suis dans une nouvelle équipe, acheter des mugs pour que les gens aient un mug avec le nom de l'équipe. Mmh. Et n'aient pas... Voilà. Et puis, je...
Nous aussi, on va faire ça. Petit mug promotionnel, comme ça, on n'a pas besoin de demander aux gens de venir avec les leurs.
Tout à fait. Et puis, franchement, je trouve ça compliqué parce que... Ça vient pas non plus des personnes, que ce soit des jeunes, des personnes plus âgées, etc. Je vois leurs habitudes, pour faire changer les habitudes, j'ai l'impression de me battre face à un moulin à vent, et pourtant, le plastique, c'est le minimum aujourd'hui. C'est le minimum, on sait qu'il y en a plein les océans, on sait que ça tue, on sait qu'on en mange parce qu'on les mange dans les poissons, etc. Mais sincèrement, c'est très, très, très compliqué. Même aujourd'hui, de faire bouger les choses, alors que...
Bérangère, juste une question, je vais pas vous demander quelle est votre entreprise, on n'est pas là pour ça, mais il y a combien de personnes, en fait, pour avoir une idée de la grosseur de ce qu'il y a organisé chez vous? Au moins par building, on va dire.
Oh, c'est des milliers, enfin...
Ah oui.
C'est un gros... Des milliers de personnes.
D'accord,
oui,
ok.
C'est une grosse entreprise.
C'est plus gros que chez nous? Nous, on est 3000 à la maison de la radio, c'est plus gros que chez nous ou pas?
Ah oui, d'accord,
ok. Merci beaucoup, merci Bérangère. On va essayer de vous aider, tiens, vous donner quelques pistes, peut-être pour convaincre les autres. Et pour ça, Cyril Ergotte est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes fondateur de Riposte Verte. Vous êtes justement chargé de conseiller les entreprises pour favoriser la transition énergétique. Vous avez peut-être des pistes à donner à cette pauvre Bérangère qui se sent tellement seule. Bonsoir Arnaud Gauffier.
Bonsoir.
Vous êtes co-directeur des programmes du WWF, responsable du programme Système Alimentaire Durable à WWF France. On parlera de votre appli peut-être dans un instant, parce qu'il y a des petits conseils, notamment pour les entreprises. Cyril Ergotte, elle est toute seule, Bérangère, hein, en fait. Et moi, j'ai l'impression, quand je l'entends, que c'est tellement plus simple, effectivement, quand on est dans une petite structure, que de faire bouger une énorme machine. Et la sienne a l'air d'être une énorme machine, en fait.
Absolument, hein. c'est un constat qui est fait quotidiennement chez Riposte Verte. C'est, en fait, si on veut que cela fonctionne, quelle que soit la taille de la structure, il faut qu'il y ait une organisation. Et cette organisation, elle doit être décidée par la direction. C'est-à-dire qu'effectivement, Bérangère peut venir avec son mug, peut essayer de convaincre ses collaborateurs, mais on n'est pas tous écolos dans l'âme, on n'a pas tous envie de faire des efforts, on se dit qu'on vient travailler et qu'on n'a pas à nous embêter sur ces sujets. Et donc, au bout d'un petit moment, on devient un vilain petit canard, elle disait qu'elle se faisait déchirer ses affiches. Donc, pour que ça fonctionne sur ces sujets et écologiques, c'est la direction qui doit effectivement prendre la décision qu'elle veut faire des changements concrets. Pour cela, ça doit partir obligatoirement de la mise en place d'une organisation avec un pilote qui va être lui aussi à un niveau de direction suffisamment haut placé pour pouvoir prendre des décisions. Ensuite, pouvoir faire en sorte qu'un diagnostic soit posé, que ce soit sur les gobelets, que ce soit sur la vaisselle, que ce soit sur les cartouches, les produits d'entretien, parce que du plastique, il y en a un petit peu partout. Que ce diagnostic soit posé, qu'il soit fait sur l'ensemble de l'activité et même par site, c'est-à-dire que pour chaque site, la réponse va être différente. Pour chaque entreprise, la réponse va être différente, parce que ça vient de la culture, ça vient du site. Et à partir de ce diagnostic, on va pouvoir effectivement mettre en place des solutions concrètes et bien trouver les solutions qui sont adaptées au site de Bérangère et pourquoi pas au site d'à côté qui n'a pas forcément...
Comment vous faites, vous, quand vous entrez, ça se passe comment? Vous faites une sorte d'audit, c'est ça?
Absolument.
Vous regardez qui utilise quoi, qui est, je ne sais pas, loin de la machine à café, est-ce qu'il y a une prise pour une fontaine à eau? Comment ça se passe, en fait?
On va faire effectivement un audit global, on va faire un audit qui est basé sur un questionnaire d'audit que l'on a créé chez Riposte Verte. Nous, on a identifié 700 points d'impact sur l'environnement dans un immeuble de bureau, et on va aussi faire un audit sur une étude documentaire, c'est-à-dire qu'on va demander les factures d'achat de tous les gobelets. Et on va pouvoir comme ça faire prendre conscience du problème. Typiquement, moi j'ai en tête, alors pas forcément dans une grande entreprise comme Bérangère, mais pour une plus petite structure de 80 personnes, si vous utilisez un gobelet par jour, c'est 16 000 gobelets à la fin de l'année. Donc on va faire cette étude documentaire, on va faire une visite effectivement des locaux pour voir où sont situés les points d'eau, où est-ce que... Quels sont les moyens qui sont utilisés? Est-ce qu'il y a la possibilité de changer de contenant pour essayer de favoriser typiquement des mugs, des verres, des tasses, des brodeaux et voir s'il y a un service qui est mis en place pour pouvoir les récupérer, les laver, etc. etc.
Arnaud Gauffier, ce que j'entends aussi dans ce que dit Bérangère, c'est la contrainte, en fait. Et ce qu'il faut arriver à faire passer, j'imagine que c'est ce que chacun fait, c'est il faut que ce soit ludique aussi pour l'entreprise, il faut que ce soit quelque chose qu'on a tous envie de faire en même temps, en fait, parce que si on nous impose, forcément ça se passera avec des heures. Et surtout s'il y a un aspect hiérarchique d'ailleurs, parce qu'il faut bien qu'il y ait un moment quelqu'un qui prenne des décisions.
Alors oui, il faut certainement jouer sur les deux leviers. Et effectivement, il y a un côté ludique qui peut-être être amené. Le WWF a sorti une application qui s'appelle We Act for Good fin 2018.
WAG, faut la chercher
voilà,
à WAG.
WAG en fait. Faut la chercher à WAG sur les stores avec une déclinaison actuellement WAG au bureau justement pour essayer d'engager les salariés au quotidien sur ces éco-gestes et la transition écologique au sein des entreprises. Cette application, en fait, elle vise à vraiment à stimuler le côté ludique de la transition écologique. Donc, par exemple, c'est des défis derrière où les salariés vont s'inscrire à un défi cette semaine. J'arrête les touillettes dans le café, j'arrête les gobelets en plastique dans mon service, etc. Et l'intérêt, c'est de créer des groupes de salariés qui vont pouvoir le faire ensemble, montrer que c'est possible à plusieurs pour effectivement éviter d'être isolé comme peut se retrouver Bérangère, créer un peu une émulation de groupe. Derrière, on peut engager soit un service, soit un étage de son entreprise, soit tout un site. Et puis, ça peut créer une émulation sur tout un groupe. Alors après, il faudra certainement en passer par la contrainte parce que on engage les pionniers, je dirais, avec une application comme ça, mais qui vont montrer que c'est faisable, que c'est possible. Et derrière, c'est à la hiérarchie, comme le disait Cyril, de jouer son rôle et de l'imposer à l'ensemble de l'entreprise.
Est-ce qu'il y a des contraintes, des obligations de toute façon désormais dans les entreprises ou pas du tout en la matière? Parce qu'on voit bien ce que ça peut être pour les économies d'énergie, etc. Là, on voit bien ce que l'entreprise peut y retrouver, mais est-ce qu'il y a des de vraies contraintes à l'intérieur de l'entreprise? Est-ce qu'il y aurait un moyen de dire, puisque les pailles sont interdites, par exemple, puisque les pailles sont interdites désormais dans plein d'endroits par la communauté européenne, attention, vous, entreprise, voilà quels sont aussi vos devoirs en matière de plastique ou de déchets?
En matière de déchets, oui, bien évidemment. Il y a depuis 2016 un décret qu'on appelle le décret 5 flux qui oblige effectivement les entreprises, mais c'est valable pour un petit peu tous les déchets de toute façon, à respecter la hiérarchie des déchets qui est dans un premier temps la prévention, ensuite favoriser le réemploi, la réutilisation, après le recyclage et in fine l'enfouissement ou l'incinération si vraiment on peut pas faire autrement. Mais et donc cette obligation est sur la gestion du déchet. Il n'y a pas d'interdiction d'utiliser du plastique bien évidemment en interne. Mais pour rebondir sur ce que disait Arnaud, il y a effectivement un point qui est très important, c'est cette communication interne. Et cette communication interne, elle doit se faire à partir d'un reporting qui va pouvoir consolider dans leur idée les précurseurs, comme Arnaud le disait, c'est-à-dire qu'on va pouvoir amener des gens qui sont un petit peu récalcitrants à bouger, parce qu'on va leur montrer qu'effectivement ça fonctionne et qu'il y a des résultats derrière. Il faut absolument que cette démarche soit pérenne. Faire des coups d'épée, ça ne fonctionne pas. Au bout d'un moment, les collaborateurs vont être démotivés et vont se dire « Ok, on nous a fait un petit coup de greenwashing, on nous a parlé de la semaine du développement durable des plastiques, et puis on est passé à autre chose tout de suite après. » Il faut vraiment que et c'est pour ça que la direction doit s'impliquer pour montrer qu'il y a cette volonté que ça soit une démarche qui dure dans le temps.
Et du coup, en posant ma question, j'ai mangé la vôtre, Stéphane. Du coup, allez-y directement, on vous écoute.
Oui, allô, oui, bonjour. Du coup, j'avais des questions par rapport aux sanctions et aux incitations qui sont possibles et aux obligations des entreprises. Moi, je travaille dans une entreprise européenne qui est, on va dire, collègue de France Inter, c'est Euronews.
C'est pas grave.
On est plusieurs à être un peu embêtés. On trie beaucoup le papier parce qu'il y a beaucoup de journalistes. Mais il y a des poubelles qui ont été mises en place parce que le local est relativement récent. Avec par exemple des poches en plastique grise et des poches en plastique transparente blanche pour le recyclage. Mais en fait, on a l'impression que tout part dans la même benne, on va dire. Parce que j'ai cru, en me renseignant un peu, comprendre que bon, les entreprises soient les qui payent expressément elles-mêmes pour faire le tri, vu que c'était pas dans les impôts comme un particulier. Et donc du coup, voilà, on a l'impression que ces choses qui ont été mises en place par l'architecte, on va dire presque du bâtiment, ne servent strictement à rien. Les distributeurs de boissons avec des canettes en alu ou des bouteilles en plastique qui ne sont pas triés, du coup, il n'y a pas de poubelle de recyclage à côté des distributeurs. Enfin, voilà, c'est un peu désespérant.
Un peu à la va-comme je te pousse, visiblement, Stéphane. Merci beaucoup, Cyril Ergot. Ce que dit Stéphane, effectivement, greenwashing, donc on met bien les poubelles de couleur, etc., mais qu'est-ce qui se passe au bout? Est-ce qu'on le sait réellement, en fait?
C'est un peu le but, justement, de cet audit dont je parlais, c'est-à-dire que ce que nous dit Stéphane là, je l'entends quasiment tous les jours. Je fais le geste de tri, derrière la pré-collecte, ce qu'on appelle la pré-collecte, donc ce qui suit le tri avant qu'il y ait la collecte sélective en pied d'immeuble, et la pré-collecte, souvent, on n'a pas de chiffres, mais régulièrement, effectivement, j'entends que, après, on me dit, les femmes de ménage passent et elles mettent tout dans la même poubelle. Donc, cet audit va servir à ça, à identifier ce genre de pratiques. Et pour répondre à sa question sur les obligations réglementaires, toutes les entreprises en France ont l'obligation de tenir ce qu'on appelle un registre des déchets. C'est-à-dire qu'elles doivent être en capacité de communiquer le type de déchets, les quantités de déchets, la destination des déchets et ce qu'ils deviennent in fine. Et ce registre des déchets, malheureusement, il est assez peu tenu. On a la possibilité de pouvoir remplir cette obligation lorsqu'on travaille effectivement avec un spécialiste de la collecte des déchets de bureau.
Tiens, c'est pour vous cette question, Arnaud Goffier, parce que sur votre appli WAG, on a Elisabeth qui a bien vu que les entreprises disposant d'un garage dont ont l'obligation de fournir à leurs employés un lieu où ranger leur vélo en sécurité toute la journée. On est un peu sorti du plastique, mais quand même, moi je trouve ça intéressant de la poser. Ah bon ? J'ai envie de dire, ah bon ?
Oui, alors.
Il y a vraiment une obligation, et est-ce que quand cette obligation n'est pas remplie, elle est sanctionnée ou sanctionnable? Ça se passe comment?
Pour qu'elle soit sanctionnée, sanctionnable, il faudrait qu'elle soit contrôlée déjà, et c'est bien le problème, c'est que il y a très peu de contrôle sur ce genre d'obligation. Et les entreprises, pour la plupart, effectivement, ne mettent pas forcément à disposition un local à vélo.
Alors. Moi, j'en connais une qui met pas à disposition un local à vélo.
À partir du moment où il y a un garage.
Oui. Alors, aussi,
après,
sur de la construction neuve ou de la réhabilitation, pas sur de l'existant.
C'est ça. Et sur de la réhabilitation, ça marche aussi.
Oui, c'est une obligation.
C'est tout ce que je voulais dire. Non, je vous en prie.
Oui, c'est vrai que vous avez fait des travaux.
Ah bah un
aussi,
petit peu. Ouais, on fait toujours des travaux. Nous,
alors après, local à vélo, certaines entreprises ont des conceptions parfois un peu bizarres d'un local à vélo. Ouais. Ça peut être juste un rack posé au fond du garage à voiture que personne ne voit, absolument pas facile d'accès, où faut porter son vélo en descendant trois marches. Donc voilà, ça peut être vraiment des fois fait au minimum.
Nicolas, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Allez-y, Nicolas.
Oui, donc je voulais, j'ai bien aimé la remarque, j'ai bien aimé de façon ironique la remarque d'un de vos interlocuteurs sur le fait qu'il fallait impliquer la direction dans les décisions de changement. Donc moi, mon témoignage est un peu ironique. Donc, je travaille aussi comme Bérangère dans un grand groupe industriel. L'établissement où je travaille comprend à peu près 500 collaborateurs, travail de bureau avec des machines de distribution de boissons type café, soupe, thé, etc. gratuites. Après avoir convaincu que mes collègues proches utilisaient des mugs, j'ai contacté le chef d'établissement pour généraliser l'utilisation de ces mugs. Après quelques mois et passage au CE et des réticences classiques sur du type la consommation d'eau pour nettoyer les mugs va augmenter, ma demande a été acceptée au CE, donc victoire. Chouette, mais victoire à la Pyrrhus, je dirais, parce que première surprise, les mugs qui nous ont été distribués sont en plastique, durable certes, mais en plastique. Et deuxième surprise, finalement, on a été décidé de conserver les gobelets en plastique dans les machines, de façon à ne pas pénaliser les visiteurs, clients ou fournisseurs qui arrivent dans l'entreprise et qui n'auraient pas pensé à prendre leur mug avec eux. Ce que je voulais dire, c'est que les mentalités changent peut-être, mais la conscience n'évolue pas beaucoup, en fait.
Et parfois, effectivement, on le sent dans le témoignage de Nicolas, c'est un peu le diable qui se mord la queue, effectivement. Même quand tout le monde a son mug, mais quand il y a un invité, bah, il n'y a rien pour l'invité. Ça paraît frappé au coin du bon sens, Cyril Ligotte, mais il faut penser à ce genre de choses.
Absolument, en fait. Tout à fait. Et encore une fois, je suis désolé de me répéter, mais ça fait partie de ce travail d'état des lieux qu'il est nécessaire de faire et qui va nécessiter de prendre des décisions qui vont être adaptées à chaque site. Pour répondre à Nicolas, il existe des machines qui ont un détecteur de mug et qui donc vont pouvoir éviter de faire descendre le gobelet lorsque le mug va être mis. Ensuite, pour les
plus en plus d'ailleurs, non, les machines comme ça, parce qu'il y a
quasiment systématique,
quasiment toutes désormais, il y a quelque chose qui s'allume, c'est le cas des nôtres en fait, donc le mug est détecté en fait.
Il faut la demander. Après, si vous avez un distributeur qui est assez ancien, il va pas forcément être adapté, donc vous pouvez demander.
Mais du coup, vous savez ce que c'est, la question que je me pose, moi, c'est puisque ce détecteur existe dans toutes les machines, pourquoi est-ce que de fait on met encore finalement des gobelets dedans? Est-ce qu'il ne suffirait pas, Arnaud Goffier, de mettre attention, pas de gobelets dans cette machine, et même lorsqu'on remet le café, etc., on remet plus de gobelets en fait à l'intérieur?
Oui, tout à fait. Il suffirait de ne pas mettre de gobelets, mais après ça rejoint la remarque de votre auditeur. Après, quand on invite un fournisseur deux, trois fois et qu'il se retrouve sans gobelet et qu'il doit aller laver son propre mug pour avoir un café, ça fait mauvais genre. Donc, on remet des gobelets. Donc, faut prévoir aussi toute cette infrastructure derrière et toute cette organisation pour prévoir suffisamment de contenants à disposition pour les invités extérieurs. Et j'ajouterais juste que cette remarque de l'auditeur aussi montre un peu les limites finalement des engagements des entreprises, des engagements volontaires des entreprises. C'est pour ça qu'il faudra passer aussi par la loi à un moment pour interdire tout simplement, d'un point de vue réglementaire, l'usage de ces plastiques, enfin ces plastiques à usage unique.
Avant de vous redonner la parole, Cyril Ligotte, parce que j'ai vu que vous la souhaitiez, j'ai une question un peu corollaire en fait qui vient de Yves sur franceinter.fr et qui dit « Mon entreprise a remplacé les gobelets plastiques par des gobelets en carton, mais est-ce vraiment recyclable ?» En fait, vous savez, il y a toujours cette histoire de la fine couche de plastique à l'intérieur des gobelets papier. Donc est-ce que oui ou non, au bout du compte, le gobelet papier qui tombe, ou carton, est vraiment recyclable? Est-ce qu'il est vraiment meilleur que celui en plastique?
Tout dépend comment il est fabriqué, effectivement, s'il y a un film plastique ou pas. Et surtout, tout dépend aussi de la matière première qui est utilisée, notamment des fibres qui sont utilisées. Il s'agit pas d'aller remplacer des gobelets plastiques par des gobelets carton qui vont contribuer à la déforestation, par exemple, ou qui proviennent de forêts qui sont extrêmement mal gérées. Donc derrière, il faut pouvoir veiller à ce que ce soit, si possible, des gobelets carton recyclés, ou au moins des gobelets carton qui soient certifiés FSC, donc avec un label robuste de certification forestière. Et puis ensuite, il faut aussi disposer d'une filière de recyclage de ces gobelets carton. peut y avoir, ça peut être le compostage, mais encore une fois, ces gobelets ne sont pas toujours compostables dans un composteur de toit, par exemple. Si vous avez une entreprise qui dispose d'un compost d'entreprise, ça peut des fois être compostable uniquement dans des filières industrielles. Donc, c'est d'autres questions qui se posent effectivement derrière ce remplacement.
Et c'est pour ça que, puisque nous, on a choisi nous aussi de balayer devant notre porte et de raconter comment ça se passe à Inter, qu'on est en train d'opter, en tout cas pour l'instant, c'est là que nous en sommes, pour du solide, effectivement, à cause de la filière recyclage des gobelets en papier, qui n'est pas aussi simple. Cyril Ergot, je vous avais interrompu, pardon.
Pas de souci. Moi, j'ai juste, avant de venir vérifier, mais Citeo, donc, qui est l'éco-organisme en charge de la gestion des déchets, déclare sur son site que les gobelets en carton, même avec la petite pellicule à l'intérieur en plastique, sont recyclables et peuvent être mis dans la poubelle jaune. Donc ça, c'est plutôt dans l'absolu une bonne nouvelle. Ouais. Ensuite, pour les gobelets qui tombent des machines, vous avez des solutions qui existent, hein, de gobelets qui sont réutilisables. C'est-à-dire que vous avez une solution, vous allez avoir un gobelet qui est un petit peu plus dur que le gobelet qui se déforme très facilement. Mmh. Et donc ces gobelets-là vont être utilisés, ensuite vont être récupérés pour être emmenés, être lavés et être ramenés. Et les ACV, donc les analyses du cycle de vie qui sont faites sur cette solution-là, sont plutôt très bonnes.
Marie, bonsoir.
Bonsoir.
Allez-y Marie, on vous écoute.
Oui, alors moi je voulais apporter un petit témoignage un peu négatif. En fait, je travaille moi dans une petite structure de 12 personnes. C'est une association. Le problème, c'est qu'il n'y a d'une part pas de tri, c'est-à-dire c'est une poubelle unique pour tous les déchets. Et l'autre problème en fait auquel je suis confrontée quotidiennement, c'est de voir... que quand on va acheter, en fait, comme on est beaucoup d'employés, je pense qu'ils ne ramènent pas forcément à manger de chez nous, on va acheter en fait dans le quartier et je me bats quotidiennement auprès des restaurateurs pour ne pas avoir de couverts, de gobelets, de serviettes qu'on nous donne systématiquement et en fait tous ces déchets-là, en fait, bah, tous mes collègues n'ont pas du tout cette conscience, j'ai l'impression, et du coup c'est vrai que les poubelles sont mises en vrac et je sais que le tri n'est pas du tout fait derrière et ça c'est un vrai souci, je trouve, au quotidien, de voir autant de... Voilà, on nous offre des couverts tout neufs, tous les jours, alors qu'on n'en a vraiment pas besoin. Voilà, et ça me rend un peu malade.
Merci pour votre témoignage. Et c'est vrai que ça commence comme ça, l'un ou l'autre, Arnaud Coffier. Ça commence par toutes ces choses qui sont purement inutiles quand on y réfléchit bien, en
fait, tout à
dont
fait,
on peut se passer très très facilement.
Et puis dans une structure de 12 personnes, on peut penser que c'est relativement simple d'avoir quelques couverts dans un tiroir, de les laver tous les jours, d'avoir quelques verres et quelques mugs aussi à disposition. Derrière, je reviens sur cette idée d'aspect ludique, en fait, un peu de cette transition. Ça peut être l'occasion d'organiser un défi avec les collaborateurs, avec les salariés, essayer de faire une semaine sans prendre un seul couvert en plastique dans cette structure. Ça peut être une occasion pour essayer d'enclencher quelque chose. Ce témoignage aussi touche aussi du doigt le problème de l'engagement finalement des acteurs extérieurs à l'entreprise aussi, notamment la restauration à domicile et la restauration à emporter. Le volet d'engager les restaurateurs autour de son entreprise, les magasins qui sont à proximité de l'entreprise et qui font de la vente à emporter est absolument essentiel. Si je prends l'exemple du WWF, nous, c'est quelque chose auquel on s'attelle actuellement, c'est-à-dire de sensibiliser tous les acteurs qui font de la vente à emporter, parce qu'on n'a pas de cantine chez nous dans nos locaux. Donc on a des salariés qui vont acheter des produits majoritairement bio, produits dans les magasins à proximité. Mais maintenant, l'étape suivante, c'est de les sensibiliser à nous fournir plus de vrac, plus de contenants réutilisables, plus de contenants consignés.
Ah bah moi, si j'avais un magasin de ce genre, évidemment que je m'installerais devant le WWF ou ailleurs. Tiens, quelques témoignages en rafale avant de retourner au standard. Laura, sur l'appli France Inter, nous dit qu'elle est au Canada depuis 5 ans, qu'elle n'a jamais vu un seul gobelet plastique dans les entreprises. Tout le monde a sa gourde et son mug. Rien de compliqué, évidemment, juste du bon sens. Cet autre mail, cette fois, sur franceinter.fr, qui nous dit à la Bibliothèque nationale rue de Richelieu, donc à Paris, qui a ouvert en décembre 2017, donc c'est très récent, il n'y a aucun recyclage. Les machines à café, en tout cas, ont des gobelets en plastique. Des distributeurs de bouteilles en plastique aussi sont installés. C'est quand même étonnant, nous dit cet auditeur, et c'est la même chose à la bibliothèque François Mitterrand, qui a été construite, elle, en 1990. Bonsoir Catherine.
Bonsoir.
Allez-y.
Oui, voilà, en fait, je voulais apporter mon témoignage concernant mon entreprise que j'ai rejoint il y a 3 mois maintenant. Avant, je travaillais en France et j'ai vu un reportage sur une petite entreprise qui est dans l'informatique, parce que je suis dans l'informatique, et qui faisait du zéro déchet, entre guillemets. Donc, ils faisaient du tri, du recyclage, tout ça. Et comme c'est un peu mon optique de vie, mais que je voulais pas complètement changer de vie et rester dans l'informatique, parce que c'est mon métier et je l'adore, je voulais pas aller... élever des chèvres ou je sais pas, enfin, voilà, je vais quand même garder mon métier. Et j'ai trouvé cette entreprise, je pensais pas que c'était possible, une entreprise qui correspond à mes valeurs, à mes, voilà, à ma philosophie. Oui. Et donc, dans cette entreprise, on a 12 poubelles de tri, plus ou moins. On recycle tout, le carton, naturellement le plastique.
Attendez, 12 poubelles de tri pour vous tous, rassurez-moi, c'est pas 12 oui. trucs différents, non, j'ai eu peur.
Oui, non, on est une petite structure, on D'accord. est 15.
D'accord.
Donc, je rejoins un peu le témoignage de Marie. Je me dis que ça, c'est possible, en fait, en petite structure, mm-hmm. de faire de l'écologie. Parce qu'on met un petit lave-vaisselle à disposition, nous, on en a un. Pour les collaborateurs mm-hmm. ou les clients qui viennent nous voir, on leur sert le café dans des tasses en verre. Mm-hmm. Voilà, on les met dans le lave-vaisselle le soir. Quand on voit que le lave-vaisselle est plein, bah, on le met en route. Enfin voilà, c'est une philosophie aussi globale de l'équipe. Tout le monde est plus ou moins dans la même optique. Le matin, le premier qui arrive, s'il voit que la vaisselle est finie de passer, il range dans les armoires. Enfin voilà.
Ça se passe comme à la maison, en fait. Ça se passe comme à la maison, au fond, chez vous, Catherine. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Alors, c'est vrai, on le disait tout à l'heure, hein, que c'est plus facile dans les petites structures. Est-ce que vous avez le sentiment, Arnaud Coffier, que plus ça va, quand ils ont le choix, on n'a pas toujours le choix, mais les gens font le choix, justement, d'essayer de se faire embaucher dans des entreprises qui sont plus éco-responsables. Est-ce que désormais, ça devient un critère, sur le même plan, ou quasiment, en tout cas, que l'intérêt du travail, le salaire et le reste? Est-ce que c'est vraiment rentré dans les critères, selon vous, ou pas?
Ce qu'on voit actuellement, c'est effectivement que le sens du travail prend de plus en plus d'importance dans les choix de carrière des gens, et notamment des jeunes diplômés. Mmh. Il y a une crise de vocation là, actuellement, chez les jeunes diplômés, et en particulier chez les jeunes diplômés des filières scientifiques, des ingénieurs notamment, qui, pour certains, refusent de rejoindre des grands groupes dont ils estiment que la politique n'est pas du tout en accord avec la réduction de l'empreinte écologique. Donc oui, il y a une réelle prise de conscience qui va bien au-delà du sujet de ce soir, qui est la réduction des plastiques et la réduction de l'empreinte au quotidien. C'est plus vis-à-vis de la politique d'entreprise et du business model, finalement, de ces entreprises.
Un tout petit pas de côté pour vous, Cyril Argotte, mais encore que, comment faire du café écologique en entreprise? Les machines à capsules ne sont pas écolo, mais ça reste quand même plus pratique quand on partage un bureau où chacun amène ses dosettes. Est-ce que dans l'idéal, on bannit la machine à dosettes ou pas?
Dans l'idéal, oui, on la bannit, oui, absolument. Dans l'idéal, on utilise la bonne machine à café avec un filtre en aluminium qui peut être lavable, réutilisable. Et une fois qu'on a fait son café, qu'on l'a fait chauffer, on le met dans un thermos pour le garder bien au chaud.
Voilà, bah écoutez, maintenant chacun le sait. Là, je me flagelle.
Dans l'idéal.
Là, je me... Oui, c'est ça, voilà. Bonjour, Blanchette, c'est ça?
C'est Claude Blanchet.
Ah bah voilà, Monsieur Blanchet, pardon.
C'est pas, non, je vous en prie.
Je vois un Blanchette qui s'allume. Allez-y, je vous écoute.
Oui, ce qui me fait intervenir, c'est que j'ai entendu plusieurs témoignages qui vont dans le sens de ce que vous appelez tout à l'heure le bon sens. Mm-hmm. Et bon, je suis pour que chacun fasse des efforts dans la gestion des déchets. Oui. Mais est-ce que j'entendais l'émission tout à l'heure entre 18 et 19 heures, et l'intervenant qui fait un travail remarquable à bord de son voilier, je crois, ou d'un bateau, remonte le courant des fleuves pour aller chercher d'où vient à la source, du moins remonte à la source pour voir d'où viennent les déchets plastiques. Mmh. Je trouve ça très intéressant, mais puisqu'on va à la source, ne pourrait-on pas aller à la source en légiférant et en interdisant purement et simplement la production, parce que les déchets plastiques, avant d'être des déchets, ce sont des objets, des objets qui nous ont servi, dont on nous vante à longueur de films publicitaires les mérites. Ne pourrait-on pas légiférer pour interdire, comme on l'a fait pour les bâtonnets, pour les oreilles ou pour les pailles ou pour les sachets plastiques sur les dans les hypermarchés ou sur les marchés.
Merci beaucoup pour cette question. C'est aussi ce que disait d'ailleurs tout à l'heure notre ami de l'association de la Fondation Tara. Effectivement, l'idéal, évidemment, c'est qu'on en ait moins à faire et que donc il y ait moins de production. Est-ce qu'on peut interdire le plastique, Arnaud Goffier, ça paraît un peu compliqué, en fait. Hein.
Interdire le plastique au sens général du terme, c'est complexe, mais ce qui est clair, c'est pas qu'on peut, c'est qu'il faut interdire certains usages du plastique, et notamment le plastique à usage unique, et se fixer surtout une trajectoire de sortie d'interdiction. C'est tout l'enjeu de la loi anti-gaspillage qui sera présentée au Conseil des ministres début juillet, donc qui sera débattue cet été. L'idée, c'est d'avoir une trajectoire de sortie de ce plastique à usage unique, de se donner les moyens aussi d'atteindre l'objectif fixé par la feuille de route pour l'économie circulaire de 100% de recyclage en 2025, 100% de recyclage de plastique. On est très très loin du compte en France.
Il faut qu'on se fixe un objectif plastique comme on se fixe un objectif diesel. Comme on se fixe un objectif de ce type-là?
Voilà, on a des objectifs de recyclabilité, on n'a pas d'objectif de sortie de certains usages du plastique, notamment de plastique à usage unique.
Allez-y, pardon,
oui,
monsieur Ergot.
Au-delà de l'aspect législatif, parce qu'on sait que les Français sont pas forcément, ont pas forcément envie d'avoir un peu plus de législation sur le sujet, il y a un aspect d'éco-conception, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, les industriels doivent prendre conscience que éco-concevoir, donc penser dès la conception et la fabrication de leurs produits, qu'il est nécessaire d'éviter certaines matières. Typiquement, si je prends le cas des fauteuils, voilà, je suis assis sur un fauteuil avec du plastique, il n'y a pas que les gobelets où il y a du plastique dans l'entreprise, il y a le mobilier, bien évidemment.
Il y a les ordi,
aussi. Il y a les ordinateurs, 12% d'un ordinateur, c'est du plastique. Le mobilier de bureau, c'est 900 millions d'euros en France, c'est 200 000 tonnes de mobilier de bureau qui sont générés en déchets chaque année. Un siège qui va être éco-conçu, va intégrer des matières recyclées, donc on va pouvoir utiliser du plastique recyclé. On va essayer de réfléchir à un montage qui va pas être trop complexe, où va pas y avoir trop de points de fixation, et donc quand il va arriver en fin de vie, on va pouvoir le démonter plus facilement et réutiliser les matières plus facilement. On va éviter les colles et on va pouvoir comme ça réutiliser plus facilement les pièces.
Il y a une question sur franceinter.fr qui est pour vous, je crois. Je suis patron de PME, mais j'ai beaucoup de mal à convaincre mes collaborateurs. Comment les convaincre? À qui m'adresser pour faire un diagnostic? Ben à vous, Cyril Ergot, non?
Effectivement, il peut tout à fait me convaincre, me contacter, pardon. J'en profite pour dire que nous avons en ligne sur le site de Riposte Verte un autodiagnostic déchets de bureau. Donc n'importe qui peut venir sur le site de Riposte Verte et répondre à une quarantaine de questions sur sa gestion des achats, de tri, de collecte, des déchets pour voir si il est au point. Et sinon, comment faire? C'est assez simple, effectivement, il faut qu'il fasse son diagnostic. Et ensuite, il y a nécessité de communiquer sur les enjeux et de faire ce reporting dont je parlais tout à l'heure pour montrer aux collaborateurs les progrès.
Combien de fois on peut le plastique peut-il être recyclé? C'est la question qu'on a sur franceinter.fr.
Alors ça dépend du type de plastique à l'origine, mais quoi qu'il en soit, on est sur des... Une fois, deux fois maximum, et on est sur des cycles de recyclage qui sont bien inférieurs à ceux du verre, par exemple, si on prend l'exemple du verre, qui peut être quasiment recyclé à l'infini. Le plastique est recyclable, mais de façon très limitée.
Hamid, bonsoir.
Oui, bonsoir, messieurs dames.
Bienvenue, Hamid.
Merci beaucoup.
Allez-y.
Bravo pour votre émission et le temps de France Inter que j'apprécie beaucoup. Oui, en fait, moi j'ai un restaurant à Paris qui fait des céréales, enfin des bols de céréales, d'ailleurs il s'appelle Céréales, et j'utilise de l'emballage biodégradable depuis 3 ans. Et en fait, c'est de l'emballage à base de maïs, etc. Et donc les gens, donc ils l'utilisent, ils apprécient ce positionnement. Maintenant, ce dont je veux parler, c'est en fait, j'ai fait une petite expérience il y a quelques mois et j'ai acheté des bols en verre que j'ai proposés aux clients, qu'ils ont acheté au prix coûtant donc, et j'ai observé que les gens reviennent avec leur bol en verre, et ça nous évite de proposer des bols en plastique, même si des biodégradables. Et donc l'idée, c'est que quand on initie des mouvements de ce type, même si des millénaires, les gens l'adoptent. Et donc il y a une responsabilisation des gens pourvu qu'on leur montre un petit peu ce qu'ils. Et puis il y a une autre anecdote, c'est que aujourd'hui dans la boutique, quand je propose par exemple un sac pour emballer tout ce que le client a acheté, bah le client il le refuse maintenant, et moi je trouve ça super. Maintenant on le demande, est-ce que vous voulez un sac ou pas, et la majorité des gens ne prennent plus le sac même s'il est biodégradable.
Merci beaucoup Hamid, et bravo à vous. Et il a raison Hamid, Arnaud Goffier, c'est parfois simple de changer les habitudes des gens. Le coût du verre, c'est vraiment pas facile, c'est tellement simple en fait. Et pareil, on a tous un peu ce réflexe là désormais, pas tout le temps, d'avoir un sac sur soi. Donc désormais, on peut refuser le plastique. C'est aussi notre devoir de consommateur, peut-être, de dire bah non.
Bien sûr, tout à fait. Alors, l'exemple du sac est intéressant, mais il faut aussi se rappeler que l'exemple du sac vient aussi d'une interdiction, donc d'une réglementation qui est passée et qui a banni progressivement l'usage des sacs de caisse et des sacs à usage unique. Ça s'est appuyé aussi sur une réglementation qui a enclenché ce changement de comportement. Après, l'exemple d'Amid est intéressant parce que c'est vraiment une de nos priorités dans le cadre de cette loi anti-gaspillage que de développer l'usage de la consigne, le retour de la consigne et l'usage des alternatives réutilisables. Ça, c'est réellement une priorité, et on voit qu'en plus, ça fidélise une clientèle. Et ça permet de fidéliser et d'avoir du retour des clients dans ces restaurants.
C'est une Madeleine de Proust un peu, la consigne. Nadège, vous êtes la dernière. Bonsoir, soyez la bienvenue.
Bonsoir.
Allez-y, on vous écoute.
Bon ben moi je voulais témoigner, je suis instite dans une école maternelle et nous on a mis en place depuis le début de l'année scolaire un projet éco-école autour du zéro déchet, et là on vient de passer 10 jours sur le plastique puisqu'on a participé en tant que classe au No Plastic Challenge.
Ah bah formidable, de No Plastic in My Sea, on les connaît parce qu'ils étaient invités No Plastic in My Sea à la dernière émission autour du non plastique, et les enfants, j'imagine, Nadège, ont répondu avec beaucoup de, ça s'est bien passé en fait avec eux, j'imagine.
Super bien. En fait, les enfants sont extrêmement sensibles. Bon, bien sûr, on a beaucoup parlé de ça, mais tout de suite, ils sont sensibilisés. En fait, c'est facile pour eux. Ils n'ont pas vraiment d'habitude à perdre. Ce qui est plus difficile, c'est pour les adultes. Mais les enfants, ils sont à fond. D'ailleurs, ils font participer leurs parents. C'est très, très rigolo à voir. Des fois, ils nous disent « Maîtresse, je ne peux pas te montrer mes goûters parce que là, ma mère, elle m'a mis que des déchets.
» Et dans du plastique. Merci beaucoup pour ce témoignage, Nadège. Comme ça nous permettra d'avoir le mot de la fin. Tiens, deux petites choses pour le mot de la fin. D'abord, ce message de Christophe qui nous dit: sur notre exploitation d'élevage conventionnel, nous recyclons 100% de plastique depuis plusieurs années. Une grosse pression avait été mise sur les producteurs. Ils se sont rapidement adaptés et une filière a été organisée. Preuve encore une fois que ça peut fonctionner. Puis on a Pierre de Montpellier qui a raison de nous défier, nous aussi, France Inter, qui nous dit merci pour cette journée. Mais est-ce que France Inter va réutiliser ses bouteilles en plastique dans les studios dès demain? Mais évidemment que non. Là, voilà. Allez, merci beaucoup. Merci à tous et portez-vous bien.